Je suis très heureux d'être parmi vous et j'aimerais remercier l'équipe d'accueil qui nous a accueillis très chaleureusement. On s'est senti bien accueillis et j'aimerais les remercier tout particulièrement. Donc, comme l'a dit Mickaël, je suis responsable avec David Garcia et d'autres à l'église du CEP de Saint-Maur. Et je me réjouis que nous puissions entretenir de bonnes relations entre nous par l'échange de prédicateurs. Philippe vient souvent et nous essayons de venir aussi ici pour vous encourager. Et je trouve que c'est une bonne chose pour nos relations. Et dès septembre, normalement, nous devrions essayer d'entretenir des relations approfondies. Nous en avons discuté il y a quelques semaines avec Philippe et M. Nguyen. Et je ne peux m'empêcher de dire que je suis venu avec mon épouse, Marie, qui est juste là. Je vous invite à écouter le témoignage poignant d'un disciple fidèle de notre Seigneur Jésus-Christ quelques minutes avant sa mort. Es-tu Polycarpe ? Oui, je le suis. Maudit le Christ, et tu seras libre, lui dit le gouverneur. Comment pourrais-je le maudire ? Il est mon créateur, mon roi et mon sauveur. Je te ferai brûler, répond le gouverneur. Je ne crains que le feu qui brûle les impies et ne s'éteint jamais, répond Polycarpe. « Allume le feu !» dit Polycarpe. « J'en paierai le prix !» Comme les bourreaux se préparaient à l'attacher sur le bûcher, il leur dit, Polycarpe donc, « C'est inutile, laissez-moi libre, le ciel m'aidera. » Polycarpe, disciple de Jésus-Christ, lève les yeux au ciel et prie. À cette vue, les bourreaux lui percent le cœur avec une épée. Cette petite histoire réelle, tout comme le récit que nous allons considérer ce matin, nous rappelle que vivre dans un monde hostile à Jésus-Christ n'est pas une chose simple. Et le récit que je vous invite à considérer connu nous projette au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs ont été déportés de leur pays, le temple a été détruit et la ville de Jérusalem est rasée. Daniel et ses trois amis sont en exil à Babylone. Et qui dit exil, dit changement de culture, changement de pouvoir et ambiance religieuse différente. Pas besoin d'un dessin pour vite comprendre que dans un tel contexte, une vie fidèle à Dieu est difficile. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au chapitre 3 du livre de Daniel, et nous lirons tout d'abord les versets 1 à 7. Ça ne sera pas projeté, donc je vous invite à vous munir de vos Bibles. Daniel, chapitre 3, les 7 premiers versets. Le roi Nabucodonosor fit faire une statue d'or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit ériger dans la plaine de Doura, dans la province de Babylone. Puis il convoqua les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces pour l'inauguration de la statue qu'il avait faite dresser. Alors les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, les magistrats et tous les dirigeants des provinces s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi Nabucodonosor avait érigée. Et ils se tinrent debout face à la statue élevée par le roi. Un héraut proclama à voix forte, « À vous, hommes de tout peuple, nations et langues, on vous fait savoir qu'au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue d'or que le roi Nabucodonosor a fait ériger. Et vous l'adorerez. Celui qui refusera de se prosterner devant elle et de l'adorer sera jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est pourquoi, au moment où tous les gens entendirent le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de l'harpe et de toutes sortes d'instruments de musique, ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or que le roi Nabucodonosor avait fait ériger. À cette époque, Nabucodonosor est le monarque le plus puissant du monde. Certainement épris par un sursaut d'orgueil, il fait construire une statue d'or. Il y a de fortes chances que cette statue eût été construite à son effigie. Mais nous n'en sommes pas sûrs. Mais il n'en reste pas à la simple construction. Il ordonne, verset 4, que tout homme de tout peuple se prosterne devant elle et lui rende un culte. Pour ce qui est des nations de l'époque, elles sont toutes polythéistes et croient en l'existence de dieux multiples. Et de fait, une petite courbette de plus ou de moins devant une statue, pour l'adorer, ne va pas changer grand-chose pour ces nations. Mais pour les Israélites, la réalité est tout autre. En effet, le lecteur sait, et nous savons, quelle est l'exigence du premier commandement donné par Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, en quelque sorte. Tu ne feras pas de courbette devant un autre Dieu que moi. Pour l'hébreu, pour les amis de Daniel, pas de place pour une courbette devant une statue. D'ailleurs, il ne s'agit pas tout simplement d'une statue, car le verset 18 que nous n'avons pas lu mais que nous lirons après, associe cette statue au dieu de l'empereur. Se courber le front devant la statue, c'est courber le front devant les dieux de l'empereur. C'est donc une véritable question d'allégeance, de loyauté, d'obéissance, de fidélité à Dieu qui est en jeu ici dans notre texte. Avec un tel décret d'adoration, le peuple d'Israël en exil est soumis à la pression de l'idolâtrie. Et c'est là la première chose que j'aimerais souligner et dont nous devons avoir conscience. C'est que vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est être confronté à la pression immense de nous agenouiller devant d'autres dieux, avec un petit « d » et entre guillemets. Nous vivons dans une société composée d'hommes et de femmes dont le cœur n'est pas marié à Jésus-Christ pour la plupart. De fait, vide de la place première qui revient à Jésus-Christ et à lui seul, nos contemporains marient leur cœur consciemment ou inconsciemment à ce que la Bible appelle des idoles. Une idole, c'est quoi? C'est un faux dieu qui devient tellement central et essentiel à notre vie qu'il nous contrôle, sans que l'on s'en rende forcément compte. À tel point que, à cette idole, nous pouvons lui consacrer notre passion, notre énergie, notre argent, tout y sacrifier sans y réfléchir à deux fois et sans même en avoir conscience quelquefois. Cette idole peut être la famille, les enfants, la carrière professionnelle, la réussite financière, notre réputation, l'honneur, l'approbation de ceux qui nous entourent, la sécurité, la beauté, l'intelligence, une cause politique ou sociale, un homme ou une femme aimée, ou encore une cause telle que l'écologie, ou que sais-je encore. Toutes ces choses que je viens de lister ne sont pas mauvaises en soi, sauf lorsqu'elles deviennent notre bien ultime, le but ou la raison suprême de nous pousser à l'action. Le but ou la raison suprême de notre vie est qu'elles ont une puissance de détermination, c'est-à-dire une capacité à nous pousser à l'action qui surpasse celle de Dieu sur nos choix du quotidien. Que ce soit le moment d'une seule décision ou durant toute notre vie. Par conséquent, ne soyons pas surpris que nos contemporains qui refusent la première place à Dieu possèdent des idoles devant lesquelles ils nous invitent à courber le front. Par exemple, Lorsque votre patron vous demande de mentir pour gagner un gros dossier avec beaucoup d'argent à la clé. Votre patron vous soumet à la pression de vous prosterner devant son faux dieu qui s'appelle l'argent à tout prix et qui entre en concurrence avec l'éthique de Jésus-Christ à laquelle nous devons allégeance. Je parle du patron, mais vous pouvez être vous-même le patron ou le manager qui invite l'employé à courber le front devant l'argent à tout prix. Ou encore, il n'y a pas à courir les rues de Saint-Maur, et plus encore de Paris, de ces magasins pour être bombardés de slogans. Vous avez besoin de ceci, de ceci, de ceci, de ceci et de cela. Nous soumettons ainsi à la pression d'un consumérisme exacerbé qui s'oppose, et disons-le, qui s'oppose à l'exhortation au contentement auquel nous invite Jésus-Christ. Pensez encore à la pression qu'exerce notre société par les films, les émissions télé, les revues publicitaires, les séries pour nous faire courber devant l'idole de la minceur et de la beauté, murmurant implicitement que de telles choses, la beauté et la minceur, que de telles choses purement subjectives dépend notre dignité. Courber le front devant une telle pression s'oppose à notre dignité objective d'hommes et de femmes créés à l'image de Dieu. Oui, vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est être confronté à la pression immense de nous agenouiller devant d'autres dieux. Nous devons en être conscients. Mais malheureusement, ces pressions ne sont pas seulement extérieures. Elles trouvent aussi en nos cœurs, encore malheureusement corrompus par le péché, un allié de taille. Nous ne sommes pas aseptisés contre le flirt avec les idoles. En effet, qui de nous n'a jamais suivi l'exemple de Nabucodonosor ? En étalant devant les autres les statuts de ses actes et de ses réussites, moi le premier, les soumettant ainsi les autres, auxquels il les partage, à la pression d'adorer notre moi, qui nous est si cher. Par exemple, mon perfectionnisme, qui a des bons côtés mais qui a aussi des mauvais côtés, et qui devient trop souvent une idole, se transforme en une idole tyrannique. Il me demande tellement de temps, ce perfectionnisme que je chéris tant, malheureusement. Il me demande tellement de temps que je suis conduit quelquefois à sacrifier ma femme. Non pas sur l'autel, bien évidemment, mais à sacrifier ma femme en ne lui accordant pas tout le temps que je devrais lui accorder en tant qu'époux. Et malheureusement, de façon pécheresse, quelquefois j'invite consciemment Marie ou ceux qui m'entourent à courber le front devant le Dieu perfection. Comment ? En ne les laissant pas être imparfaits et en n'acceptant pas qu'ils puissent commettre des erreurs. Sommes-nous suffisamment conscients que chaque jour, lors de chaque décision, nous sommes confrontés à la pression immense de nous agenouiller devant d'autres dieux que Jésus-Christ. Voici la question que Dieu nous pose à chacun ce matin, mais aussi à nous tous, Église de Jésus-Christ. Mes enfants, comment gérez-vous cette pression dans votre vie de tous les jours ? Poursuivons notre lecture des versets 8 à 15. Sur ces entrefaites, certains astrologues vinrent porter des accusations contre les Juifs. Ils s'adressèrent au roi Nabucodonosor et lui dirent Que le roi vive éternellement. Ô roi, sa majesté a promulgué un édit ordonnant que tous les hommes se prosternent et adorent la statue d'or. Dès qu'ils entendraient le son du cor, du fifre, de la cithare, de la lyre, de la harpe et de la double flûte et toutes sortes d'instruments de musique. Verset 11. Cet édit précise que quiconque refusera de se prosterner et d'adorer la statue sera jeté dans la fournaise où brûle un feu ardent. Or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Alors Nabucodonosor s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai érigée ? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du fifre, de la cithare, de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez aussitôt jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent. » Et, question clé de notre récit, quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ? Point d'interrogation. Jusque-là, les versets que nous venons de lire nous affirment, verset 12, que nos trois jeunes ont géré avec brio la pression entre la promulgation de l'édit et la rencontre de nos jeunes, des trois jeunes juifs avec Nabucodonosor. Plusieurs jours se sont étalés. Ils ont géré la pression avec brio. Mais regardez dans le récit comment la pression ambiante de tomber dans l'idolâtrie est renforcée par d'autres types de pressions. Regardez, verset 7. « Ces hommes de tout peuple, de toute nation et de toute langue se prosternèrent. » Qu'est-ce que c'est ? C'est la pression ici d'un véritable conformisme social. Tout le monde, sauf nos trois amis, se prosterne et adore. À la pression de l'idolâtrie s'ajoute la pression du conformisme social. Tout le monde le fait, nous le faisons aussi. Mais regardez encore verset 6, verset 11 et verset 15. Ce qui est dit, si vous refusez de l'adorer, cette statue, et d'adorer mes dieux, vous serez jetés aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. C'est ici. Ici, la pression liée à la conséquence qui adviendra s'ils choisissent d'être fidèles à Dieu plutôt qu'à l'impératif du roi. Une conséquence qui est l'épreuve de la mort dans notre texte. Et qui s'accompagne, comme je l'ai dit, d'une mise au défi de leur foi en Dieu. Verset 15. « Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains ?» s'écrie Nabucodonosor, se pensant être tout-puissant. Avec insistance, à trois reprises sur les conséquences d'un tel refus d'adorer la statue érigée par le roi, l'auteur veut nous rappeler une seconde chose. C'est que vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est accepter que notre fidélité puisse avoir un prix élevé. Vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est accepter que notre fidélité puisse avoir un coût ou un prix élevé. Reprenons l'exemple. L'exemple de votre patron qui vous demande de mentir pour gagner un gros dossier, avec un gros jackpot à la clé. Oui, votre patron vous soumet à la pression d'adorer son Dieu, l'argent à tout prix. Mais si vous lui dites « Désolé, mais avec tout le respect que je vous dois, mes convictions et mes valeurs s'opposent à une telle pratique. Votre fidélité à Dieu peut vous exposer à l'épreuve d'un licenciement. » Et peut-être même qu'il ajoutera, un peu comme au verset 15 le fait Nabucodonosor, dans un autre registre, mais « Si la désobéissance est votre choix, mon très cher employé, alors je prendrai soin de laisser un petit commentaire sur votre dossier. » un petit commentaire sur votre dossier, ce qui compliquera par la suite votre recherche de travail. Une pression supplémentaire qui mettra au défi votre foi, la mienne, en la souveraineté de Dieu. Vous laissant croire, nous laissant croire qu'un gribouillis sur un morceau de papier stoppera notre Dieu de prendre soin de notre avenir. Et puis encore, imaginez qu'un homme armé fasse son entrée à ce moment même dans l'église, pointant alors son arme à feu sur nous. Il nous demande de nous prosterner devant le Dieu qu'il appelle Allah ou que sais-je, et de renier Jésus. Sinon quoi, il n'hésitera pas à faire feu et nous mettre à mort. Je m'adresse individuellement à vous, tout comme je me suis adressé moi-même cette question. Accepterais-tu de payer le prix d'une fidélité sans compromis? Accepterions-nous de payer le prix d'une fidélité sans compromis? Cela n'est jamais arrivé en France, merci Seigneur. Mais rien ne nous assure que cela n'arrivera pas dimanche prochain. On ne sait pas. Vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est accepter. Accepter que notre fidélité puisse avoir un prix élevé. Dieu nous pose à nouveau la question ce matin. À vous et à moi, mes enfants, comment gérez-vous cette pression au quotidien? Toi, mon frère, ma sœur, es-tu prêt à payer le prix d'une fidélité sans compromis? Poursuivons avec les versets 16 à 18 et écoutons la réponse de nos trois jeunes frères à la pression insistante de Nabucodonosor. Versets 16 à 18. Écoutez l'audace. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent: « Oh, Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce sujet. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre !» Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as faite ériger. Nous en paierons le prix. Voilà la réponse, en d'autres termes, que les amis de Daniel font au roi. L'écho intérieur de la parole de Dieu: tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ou encore, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, ne pouvaient être délogés de leur conscience, une conscience aiguisée par la puissance de l'Esprit. Accepter la courbette devant la statue ou devant le Dieu de Nabucodonosor serait péché. Ce serait, pour le dire autrement, cracher au visage de Dieu. Car péché, c'est rien d'autre que cela. C'est rien de moins, pardon, que cela. Bien que le prix soit élevé au roi, nous resterons fidèles à notre Dieu, disent-ils. L'exigence d'une fidélité sans compromis n'a pas changé pour nous, disciples de Jésus-Christ. Car sacrifier sa fidélité à Dieu pour quelques courbettes devant les idoles de notre société, quelle que soit la pression, ce n'est pas aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Chérir à tout prix la beauté, chérir à tout prix notre portefeuille, chérir à tout prix l'opinion que les autres font de nous-mêmes, ce n'est pas aimer Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et la question que Dieu m'a posée cette semaine est la même qu'il te pose ce matin, qu'il nous pose ce soir, cet après-midi, pardon. Au cours de notre vie, avons-nous toujours répondu par la fidélité à la pression de l'idolâtrie? Au cours de notre vie passée, avons-nous toujours répondu par la fidélité à la pression de l'idolâtrie? N'hésitant pas à affirmer, j'en paierai le prix. Si vous êtes comme moi, un simple homme, nul besoin de remonter très loin, ou une simple femme, nul besoin de remonter très loin dans nos souvenirs pour nous rendre compte que nous ne pouvons pas répondre par oui. Non, nous n'avons pas toujours répondu, j'en paierai le prix. En tout cas, pas moi. Alors, tout comme moi, vous vous trouvez du côté de ceux qui, quelquefois, méprisent Dieu. Et je crois qu'en fait, cet exemple de la fidélité de Daniel, loin d'illustrer la nôtre, loin de souligner notre fidélité, pointe vers une fidélité plus excellente dont nous avions grandement besoin, celle de Jésus-Christ lui-même. La fidélité des amis de Daniel pointe vers la fidélité plus excellente de Jésus-Christ. Lui qui a su résister à la pression de se prosterner devant le diable dans le désert. Lui dont les actes, les pensées et les paroles révélaient le doux parfum d'une adoration sans compromis. Lui, oui, lui a accepté le prix qu'impliquait la fidélité à Dieu en répondant toujours à la pression par « j'en paierai le prix ». Et cela jusqu'au supplice de la croix. Jusqu'au supplice de la croix, événement historique où Jésus révèle qu'une vie fidèle à Dieu peut impliquer un prix élevé. Mais surtout, la croix est ce lieu où il subit le châtiment de Dieu que méritent nos courbettes, nos adorations infidèles, nos prosternations devant les idoles de notre société. Nos prosternations d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Oui, lui a payé le prix de notre infidélité pour que sa fidélité soit comptée comme tienne, mienne, notre. Par la foi et la confiance en lui. Alors c'est à lui qu'il faut regarder. C'est à lui qu'il faut regarder si nous nous rendons compte de notre infidélité passée et lorsque nous nous rendrons compte de notre infidélité future. Entends-tu? Entendons-nous ce matin l'appel de la croix qui nous invite peut-être à la repentance et à la foi renouvelée en notre Sauveur? Chers frères et sœurs, notre fidélité exclusive, exigée par le premier commandement de la loi de Moïse, ne doit pas être motivée par le désir de satisfaire la justice de Dieu, mais plutôt par la reconnaissance qu'une telle justice a été satisfaite. Jésus l'a satisfaite pour nous par sa mort, sa vie, pardon, sa mort fidèle et sa résurrection. C'est là, là le cœur de l'Évangile. Toutefois, attention, oui, Jésus a payé le prix de notre infidélité, mais non, il n'a jamais dit que le prix élevé que peut impliquer notre fidélité dans ce monde dans lequel nous vivons disparaîtrait. N'a-t-il pas dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix et marche à ma suite? Oui, il faut le dire, il faut le reconnaître. Le prix de la loyauté à Jésus, de l'allégeance à Jésus-Christ peut être élevé. Mais notre récit nous rappelle une chose. Il nous rappelle que nous devons vivre dans ce monde hostile à Dieu sans oublier que nous servons le Dieu capable de nous délivrer et présent dans l'épreuve. Et je vous invite à continuer avec moi la lecture. Et je reprendrai juste à partir du des versets 19 à 23. Non, je relis juste la confession. La confession des versets 16 à 18 et après je saute au verset 24 à 28. Verset 16 à nouveau. « Ô Nabucodonosor, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Et je passe directement au verset 24. Non pas que les versets entre soient inutiles, mais c'est une répétition. Verset 24. « C'est alors que le roi Nabucodonosor fut saisi de stupeur après avoir jeté les amis de Daniel dans la fournaise. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda « N'avons-nous pas jeté trois hommes, tous ligotés dans le feu ?» Ils répondirent au roi « Bien sûr, majesté !» Eh bien, reprit le roi, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un des fils des dieux. Verset 26. Puis Nabucodonosor s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent, se mit à crier, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent autour de ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps et qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé. Que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nabucodonosor s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui. » Qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. J'ai relu volontairement la confession de foi, parce qu'il y a une véritable confession de foi de nos trois amis dans les versets 16 à 18. Car certaines églises font valoir que ce texte-là de Daniel est une promesse de délivrance terrestre des épreuves, quelle qu'elle soit, pour celui qui demeure fidèle à Dieu. Certains font valoir cela. Et je crois que ce n'est pas ce qu'enseigne ce texte. Ce texte n'est pas une promesse que Dieu nous délivrera de nos épreuves terrestres. Je ne crois pas qu'il enseigne cela. Eux-mêmes, les amis, dans le contenu de leur foi qu'ils expriment dans les versets 16 à 19, ne sont pas certains que Dieu veut les délivrer. Même s'il ne le fait pas, disent-ils. Ils ne sont pas certains que Dieu veut les délivrer. Mais ce dont ils sont certains, leur foi, pardon, est soumise à la volonté libre et souveraine de Dieu de délivrer ou pas. Par contre, ce qu'ils croient fermement, c'est que Dieu peut et est capable de les délivrer. Et là, il y a une nuance importante. Ce récit ne révèle pas que Dieu promet la délivrance de nos épreuves ici-bas, qu'il s'agisse d'épreuves liées aux conséquences de notre fidélité, ou d'autres types d'épreuves telles que la maladie. Mais il révèle la vraie nature. Ce texte révèle la vraie nature de celui que nous servons. Un Dieu capable de délivrer, mais aussi libre de ne pas le faire. En tout cas, tout de suite. Même s'il le fera lors du retour glorieux de Jésus-Christ. Certainement. Oui, peut-être qu'après avoir été licencié pour fidélité à Dieu, tu ne retrouveras jamais un travail qui te plaise autant, avec un aussi bon salaire. Et cela peut être une source d'épreuves. Et il ne faut pas le nier. Impliquant même peut-être des changements de vie pour vous et vos enfants. Ça non plus, il ne faut pas le nier. La fidélité à Dieu peut impliquer de telles choses dans un monde hostile à Dieu. Ou alors peut-être que comme moi, le jour où tu t'es détourné des idoles de ce monde pour adorer le Christ seul, en tout cas essayer de le faire au mieux, ta famille et tes amis t'ont persécuté moralement. Et que depuis des années, elles continuent à se moquer de toi à cause de ta foi et à piétiner le Christ. C'est ce que ma famille fait. Je suis le seul chrétien de ma famille. Ou encore par ton refus de te prosterner devant l'idole de la nouveauté. Cher à notre société, en préférant passer plus de temps avec tes frères et sœurs dans la foi que dans les magasins ou sur Internet, tu seras vu comme un ringard et moqué, car pas à la pointe, ni à la mode. Et peut-être que jamais ces épreuves ne cesseront ici-bas. Et Dieu n'a jamais promis qu'il nous en épargnerait. Toutefois, considère avec moi le joyau que nous présente le verset 25. Pourquoi j'ai dit le verset 25 ? Ce n'est pas le verset 25. Je me suis trompé. Excusez-moi. Oui, la présence de l'ange. Ah non, j'étais au chapitre 4, désolé. Eh bien, reprit le roi, je vois non pas trois hommes, mais quatre. Je vois, verset 25, quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le quatrième a l'aspect d'un des fils de Dieu. C'est ici le rappel, chers frères et sœurs, d'une promesse qui parcourt toute la Bible. Ce n'est pas ici une promesse, mais le rappel d'une promesse qui parcourt toute la Bible. Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, vit l'épreuve avec ses fidèles. Vit l'épreuve avec ceux qui lui sont fidèles. Et c'est là une promesse de l'Évangile. Dieu ne nous garde pas hors, en dehors de l'épreuve, mais il nous rejoint au milieu de celle-ci. C'est là la beauté de l'Évangile. C'est là la grandeur, la majesté d'un Dieu qui nous rejoint dans nos misères, dans notre misère. Dans le cas de nos trois amis, c'est par un ange. Moi, il ne me rejoint pas dans ma misère par un ange. En tout cas, il ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. Mais cela peut être par un frère ou une sœur dans la foi. Cela peut être par une promesse tirée de l'Écriture qu'il imprime par son esprit au nôtre pour nous faire tenir ferme. Ou encore en nous accordant la joie surprenante à laquelle l'apôtre Pierre invite ses lecteurs. Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est ce que dit Pierre. Hein ? Au contraire, dit-il, réjouissez-vous. Pourquoi ? Car vous participez aux souffrances de Christ. Vous participez aux souffrances de Christ. Il me faut à présent conclure. La parole nous appelle ce matin, la parole de Dieu nous appelle ce matin à la difficile, et il faut le reconnaître, difficile exigence d'une fidélité, pas ce matin, cet après-midi, désolé, la difficile exigence d'une fidélité à Dieu sans compromis. Elle le fait en nous informant que vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est être confronté à la pression immense de nous agenouiller devant d'autres dieux. Soyons donc vigilants et demandons à Dieu perspicacité et clairvoyance pour discerner les idoles devant lesquelles le monde dans lequel nous vivons nous appelle à quelques courbettes. La parole de Dieu nous appelle à la difficile exigence d'une fidélité à Dieu sans compromis. Elle le fait en nous rappelant, en toute honnêteté, que vivre dans un monde hostile à Dieu, c'est accepter que la fidélité puisse avoir un prix élevé. Chers amis, que l'exemplarité de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre moteur et son esprit notre carburant, pour que nous puissions nous aussi dire à la suite, à sa suite, celle de Jésus-Christ et celle de Polycarpe, j'en paierai le prix. Sans jamais oublier que l'appel de la croix reste et restera toujours un lieu où le pardon sera accordé. L'appel de la croix reste et restera toujours un lieu où le pardon sera accordé à quiconque se repent et reconnaît son infidélité. La parole nous appelle à la difficile exigence d'une fidélité à Dieu sans compromis. Mais elle le fait en nous encourageant à vivre dans ce monde hostile à Dieu, sans oublier que nous servons un Dieu capable de nous délivrer et surtout présent dans l'épreuve. Crieras-tu ? Crierons-nous ? Le ciel nous aidera comme Polycarpe ? Le Seigneur Dieu ne nous garde pas hors de l'épreuve, ni ne nous promet la délivrance ici-bas, bien qu'il en soit capable. Toutefois, il nous rejoint au milieu de cette-ci. C'est la promesse, c'est là une promesse de l'Évangile. De fait, ne nous privons pas de la façon dont il veut nous rejoindre dans ces épreuves. En utilisant l'Église et ses activités, un frère ou une sœur dans le 1-1, ou encore par sa parole, qui, accompagné par la puissance de son esprit, murmure à nos cœurs les merveilles de ses promesses pour nous faire tenir bon jusqu'au jour, où les épreuves cesseront, jusqu'au jour où il ne sera plus question d'infidélité, jusqu'au jour où nous entrerons dans sa gloire et nous serons fidèles à tout jamais. Je vous invite à prier. Te remercions, Seigneur, pour le réalisme de ta parole qui nous rappelle que demeurer fidèle à Jésus-Christ, ton Fils, dans ce monde qui t'est hostile, n'est pas une chose évidente. Merci pour ce réalisme. Merci parce que la foi chrétienne, ce n'est pas le monde des bisounours. Je te remercie pour cela, Père. Je te prie de nous garder fidèles à toi, de nous accorder perspicacité et clairvoyance pour discerner quelles sont les idoles devant lesquelles notre société nous invite à courber le front. Je te prie de nous aider à ne pas être effrayés par le prix que peut coûter une fidélité exclusive à Jésus-Christ. Par ailleurs, je te prie de sceller sur nos cœurs cet après-midi la réalité suivante, que tu es capable de délivrer, comme tu as délivré les amis de Daniel, mais que tu es libre de ne pas le faire. Mais surtout, que tu nous rejoins dans la puissance de ton esprit, au milieu de nos épreuves, pour nous faire tenir bon. C'est là la gloire et la promesse que tu nous as faites. Que ta volonté, Seigneur, soit notre gloire suprême. Nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen.